Radio Cultura .eus.
Dans le cadre d'un projet scolaire, des élèves du lycée Armand David d'Asparin se sont prêtés au jeu de journalistes le temps d'une matinée en interviewant différents acteurs de l'éco-quartier du Séqué à Bayonne. L'architecte Laurent Bourotra fait partie du cabinet qui conçoit l'extension du quartier du Séqué. En plus d'expliquer ce que représente la conception d'un éco-quartier, Laurent nous fait connaître son métier riche et diversifié.
Radio Cultura.
C'est un métier qui est très diversifié. Comme on peut le dire, on travaille à différentes échelles. On peut dessiner un quartier où il va avoir 200-300 logements et dessiner une poignée de portes. Donc ça permet de ne pas refaire la même chose.
Bonjour, je m'appelle Laurent Bourotra, je suis architecte urbaniste. Je travaille sur Biarritz depuis une quinzaine d'années, associé avec Boris Le Texier. Et nous avons des travaux assez larges, puisqu'on travaille donc urbanisme, dessin de plan, création de quartiers, jusqu'à du travail sur du tertiaire, hôtellerie, usine et un petit peu d'individuel, même si on en fait beaucoup moins depuis quelques années. Sur l'écoquartier du Séqué, on a été mandaté par la ville de Bayonne pour réaliser un plan d'aménagement qui aujourd'hui reste un plan en réflexion et qui n'a pas été présenté aux habitants et qui le sera, je crois, au mois de mars sur deux zones, ce qu'ils appellent Séqué 3 et Séqué 4, qui sont une zone qu'on va retrouver à l'ouest du quartier, à l'entrée proche de l'EHPAD, et Séqué 3 qu'on retrouve au sud du quartier, qui est juste de l'autre côté de la maison pour tous. Et donc notre travail, c'est de réaliser un plan, des réflexions, pour se raccrocher au Séqué 1, qui est existant maintenant depuis une quinzaine d'années, et de continuer à développer le quartier, en essayant d'être dans une harmonie la plus grande. Pour l'instant, on est vraiment dans des pensées, des concepts qui restent de l'aménagement urbain. Donc c'est plutôt des formes et des positionnements de bâtiments. Mais premièrement, un écoquartier, c'est une charte qui est décrite par l'État, auquel on doit répondre. Il y a une vingtaine de points, quatre objectifs auxquels on doit répondre pour être labellisé écoquartier. Ce qui a été d'ailleurs le dessin du quartier initial sur Séqué 1. Déjà, notre travail, ça va être d'essayer de répondre à ces points-là pour continuer à avoir le quartier dans cette labellisation. Les écoquartiers, ça a une vingtaine d'années et c'est structuré depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est surtout des réflexions environnementales, d'usage et de construire la ville un peu plus en harmonie, en échange avec les gens qui vont y habiter. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70, 80. Et donc, c'est une démarche qui regroupe ces différents points. Donc, nous, c'est essayer de répondre à ces points, de les mettre en forme. Et après, il y a des architectes. On fera partie aussi sur certaines constructions qui construiront vraiment les bâtiments. Par exemple, sur Séqué 1, c'est l'architecte Duncan Lewis, qui est un architecte bordelais, qui a réalisé ce qu'on appelle le plan masse, donc le disposition des bâtiments. Et après, c'est une dizaine ou une quinzaine d'architectes qui ont dessiné tous les bâtiments les uns après les autres. Nous, on travaille en amont sur des grands caractères qu'on pourrait peut-être décrire, notamment environnementaux, c'est-à-dire avoir des réponses sur du logement bioclimatique et qui répondent à des critères d'aujourd'hui. Et après, l'interaction avec les habitants et les futurs
puisqu'il y a des gens qui habitent déjà, puis des gens qui vont venir, c'est de les rencontrer et d'essayer d'être dans une co-construction, ce qu'on appelle du participatif. Alors il y a deux échelles, il y en a une sur les grandes attentes du quartier, comment on vit aujourd'hui et comment les nouvelles constructions et les nouvelles extensions du quartier vont nous permettre de continuer à vivre comme ça. Puis après, sur le logement en lui-même, on peut travailler directement avec les gens pour savoir à quoi va ressembler leur logement. Mais c'est une des obligations et ce sera le cas sur CK3 et CK4. Au présent, c'est un quartier qui est assez étonnant dans Bayonne parce que c'est un quartier qui est dans la nature. Donc aujourd'hui, bon, Bayonne, c'est une ville très minérale et très construite, ce qu'on appelle très dense, plein de logements qui sont les uns à côté des autres. La chance, ou en tout cas l'opportunité qu'il y a sur ces quais, c'est qu'on vit dans le paysage. On a beaucoup d'espaces libres, d'espaces verts, qui permet d'avoir cette sensation de pas vraiment vivre en ville et plutôt vivre en campagne, si on utilise des mots un peu directs. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une grande liberté de déplacement. Quand on a fait les études sur ces quais 4 et ces quais 3, on s'est rendu compte que les gens marchaient beaucoup dans le quartier et passer entre les bâtiments. On a découvert des sentiers, les gens ils sortent leurs chiens, ils viennent courir, voilà. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas le cas de tous les écoquartiers. Il y a plein d'expérimentations dans la France entière, hein, autour notamment de Bordeaux, de Paris, vers Lyon. Et on est dans des écoquartiers des fois qui sont très dessinés, avec des cheminements qu'on doit respecter. Ici, au Séqué, on est dans quelque chose d'assez libre. On n'a pas ce qu'on appellerait un paysage maîtrisé, mais plutôt un paysage très naturel. Les sentiers se font comme lorsqu'on va en montagne ou on va dans le Pays Basque intérieur, où les sentiers se font parce que ben, les gens prennent le chemin le plus facile. Donc on a... Moi en tout cas, et les études l'ont ressorti aussi, mais plutôt une sensation d'assez grande liberté. On est dans Bayonne, sans être vraiment dans Bayonne. Alors je pense que les gens auront aussi des points un peu plus critiques, notamment par rapport à la mobilité, qui est aujourd'hui n'est pas très simple, niveau ben, d'aller vers le centre, faire ses courses, aller à l'école. Mais bon, tout ça est en train de s'organiser, je sais que... La ville de Bayonne est en train, sur les années qui arrivent, se mobiliser pour constituer des choses. Mais c'est vrai qu'on ne met pas 45 minutes pour aller à Bayonne, alors qu'on a cette sensation d'être à la campagne, quoi. Je ne sais pas si nous on peut parler de ce qui nous plaît, parce qu'on ne serait pas très objectif, puisque c'est nous qui le dessinons. Mais ce qui a travaillé et qui nous a apporté, c'est vraiment être déjà dans une réflexion un peu du futur. C'est-à-dire qu'on travaille aussi pour des acteurs privés, hein, ce qu'on appelle des promoteurs, où on a des contraintes qui sont quand même très grandes, liées à des prix au mètre carré, du prix de l'achat du terrain. Là aujourd'hui, la réflexion, elle est quand même très maîtrisée par la ville de Bayonne, et qui est un acteur public, donc il n'y a pas les mêmes contingences que l'acteur privé. Et ça veut dire que nous, dans la réflexion, on peut aller un petit peu plus loin, et notamment dans ce respect de l'environnement, dans ce respect du vivre avec les gens, de pouvoir avoir la possibilité d'en parler, de pouvoir échanger avec eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc personnellement, enfin en tout cas l'équipe, hein, parce que je ne suis pas tout seul, on a la chance de travailler sur un projet qui est assez porteur socialement, politiquement, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Sur les éléments environnementaux qui sont assez importants, il y a la sobriété dans la consommation des ressources naturelles et l'énergie. Donc ça veut dire quoi? Ressources qu'on a, c'est-à-dire le terrain, donc d'être de plus en plus compact et de faire des bâtiments qui prennent le moins de place possible. Il va avoir donc une garantie de performance énergétique, essayer de développer des énergies renouvelables locales, minimiser la consommation de matériaux et favoriser l'éco-conception. Donc on travaille sur des matériaux biosourcés, locaux, du bois, du béton de chanvre, de la terre, et minimiser l'artificialisation des ressources foncières, donc avoir un impact le moins important au sol. Donc ça c'est vraiment le point important lié à l'environnement. Et après, il y a d'autres points qui sont liés plutôt au bien-être des gens, de comment ils vont y vivre et qui répondent à d'autres critères. Il y en a quatre. Il y a un élément qui est lié donc à la résilience, c'est offrir un cadre de vie sûr et sain et favorable, développer des espaces de nature en ville. Donc là, on y est en plein dans le séqué. Inclusif, avoir de la diversité de profils. Ça veut dire d'avoir des gens qui travaillent dans des choses qui sont différentes et qui ont un parcours résidentiel. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que tu peux vivre dans ton quartier. T'es jeune, t'es pas en couple, t'as un T1, T2. Tu te mets en couple, vous voulez un T2 bis et puis vous avez des enfants. Et l'idée, c'est comme lorsqu'on restait dans le village, de pouvoir rester sur place et de ne pas être obligé de déménager. Donc ça, c'est vrai que c'est assez important, garantir la qualité d'usage architectural des logements pour tous. Et un point sur la création de valeur, diversifier l'offre de services et d'équipements, c'est-à-dire avoir une possibilité de ne pas être que monofonctionnel et d'avoir que du logement. Là, on voit qu'il y a des petits commerces, il y a la maison pour tous, il y a la maison de quartier, c'est-à-dire que ce n'est pas un quartier où on ne fait que dormir. Donc l'éco-quartier doit correspondre à ces quatre points pour être labellisé. Donc c'est quand même très très encadré. Si on ne répond pas à ça, on n'est pas labellisé, donc on ne peut pas appeler ça un éco-quartier. C'est de toute façon un modèle de vie de demain parce que c'est d'une certaine manière de plus en plus obligatoire. On doit respecter de plus en plus de règles. Quand le PLU demande un minimum de pleine terre, c'est-à-dire un minimum de possibilité de planter des arbres, on va naturellement vers la direction des grands objectifs des écoquartiers. Donc oui, il y a beaucoup de réflexions depuis donc une dizaine d'années sur ce qui a été fait et ce qu'il faudrait améliorer. Et donc c'est quelque chose qui va perdurer, même si on sait que les espaces sont de plus en plus rares. Donc l'élément de construction et les étendues sont de plus en plus difficiles à maîtriser. Donc les possibilités, elles ne reviendront pas si souvent. Mais en tout cas, dans le participatif, dans le fait de penser à l'usager, dans le fait de répondre à des critères environnementaux, oui, c'est quand même quelque chose de très important et qui acte le futur. C'est un métier qui est très diversifié. Comme on peut le dire, on travaille à différentes échelles. On peut dessiner un quartier où il va avoir 200-300 logements et dessiner une poignée de portes. Donc ça permet de ne pas refaire la même chose. Et puis il y a une emprise avec une histoire présente, passée et future, notamment sur le territoire sur lequel on vit, en Pays Basque, où la question du logement est devenue très importante. La question d'habiter l'a toujours été. C'est vrai qu'en Pays Basque, construire, on construisait pour plusieurs générations. Et donc, il y a une emprise sociale très importante. Donc, on voit comment on évolue, on réfléchit à comment on peut le faire évoluer. Donc, il y a une dimension un peu politique assez forte et assez intéressante qui permet de participer d'une autre manière à faire évoluer le milieu dans lequel on vit. Il y a une certaine évidence à la verticalité, puisque par rapport à la sobriété et à la difficulté d'avoir des terrains, plus on construit vertical, moins on a d'emprise au sol, et donc plus on peut loger des gens. La difficulté, elle est aujourd'hui que tout le monde a envie d'avoir sa maison, son jardin, et donc c'est difficile de faire accepter aux gens de sortir de ce paradigme. Alors, on y est forcé, puisque ils sont un peu plus jeunes que nous, ceux qui sont en face, mais on est dans des dérèglements climatiques qui sont tellement importants que de toute façon, on sera obligé de braquer. Mais tout le monde a envie d'avoir sa parcelle, son petit jardin, de pas être embêté, de pas avoir... On voit bien les difficultés de construire, outre le contrôle des prix, de qui va y vivre, ça c'est encore une autre question, mais personne a envie d'avoir quelqu'un au fond de son jardin, et en tout cas, c'est des choses qui sont difficilement acceptables. Donc oui, la direction de la verticalité, mais il faut accepter de construire R+5, R+6. Où? Comment? Donc ça, c'est des vraies questions. Donc généralement, aujourd'hui, on se dirige vers des lieux qui sont déjà construits et qui peuvent l'accepter. Par rapport à Lecce, c'est une vaste question qui a été tranchée d'ailleurs dans d'autres pays et même quand on va de l'autre côté. Ils n'ont pas peur de la verticalité. Hein. Vous allez à Bilbao, vous allez à Saint-Sébastien, vous allez à Irun. Ils n'en ont pas peur. Ils n'ont pas peur de densifier les lieux qui sont déjà denses. Nous, aujourd'hui, on est un peu un Éden. Et d'ailleurs, de l'autre côté, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Hein. On vient, la maison elle est parfaite, tout le monde a des colombages, tout le monde a le petit portail, tout est beau. Parce que on a une population qui est beaucoup moins importante, économiquement aussi, on a connu un essor qui est beaucoup moins important. Mais les questions, elles sont là, elles sont déjà en train d'apparaître. On a même malheureusement pris des retards sur certains points. On voit bien la difficulté aux jeunes générations de se loger. Et donc, il y a des questions. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Hein. Il y a des questions qui se posent. C'est vrai que l'individualisme qui est apparu dans les années 90 nous a éloignés de vivre dans une maison avec trois générations. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je connais des gens qui, même de ma génération, l'ont connu. Est-ce qu'elle reviendra? Parce que, naturellement ou malheureusement, des gens qui divorcent se retrouvent en impossibilité de se reloger. Donc, on entend de plus en plus de familles monoparentales qui repartent chez leurs parents, qui repartent dans les maisons, parce que c'est difficile de trouver du logement et de pouvoir construire. Comment on fait? Donc, on repart chez ses parents et voilà. Peut-être que le système est en train de se renverser naturellement par les contraintes, et c'est souvent le cas. Hein. L'homme, c'est rare qu'il le fasse par volonté. Hein. C'est souvent par la contrainte qu'on le fait changer. Et c'est vrai qu'au Pays Basque, on a peut-être cette chance de connaître déjà ces liens sociaux très importants qui ne disparaissent pas et qui permettent des mutabilités qui sont plus faciles et plus fortes. Je pense que les questions à Bordeaux, à Paris, elles vont être autres. Elles vont être beaucoup plus difficiles. Mais oui, on s'y dirige de manière très forcée. Le basque, je l'ai appris jusqu'à 8-9 ans. J'étais à Arbonne et j'étais dyslexique. C'était très compliqué pour moi d'apprendre deux langues. Donc j'étais obligé de l'arrêter. À part commander une bière, des choses importantes dans la vie. Après, je suis entouré de gens qui le pratiquent, qui le vivent, qui sont en Ikashbi, qui sont en Ikashtola, qui le vivent pleinement. Bon, bien entendu, la langue par rapport à notre territoire est quelque chose de très très important. Il y a quand même des membres illustres qui ne le parlaient pas et qui ont participé au développement du territoire. Et petite pensée à Yakacha Beberi. C'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, si je le ramène à l'urbanisme, à l'architecture, aujourd'hui, qui ne se transmet pas tellement dans l'architecture. Si j'étais un petit peu taquin, je dirais que quand même, on est dans une réflexion assez minimaliste de l'architecture en Pays Basque. Ça plaira peut-être pas à certaines personnes, mais par moments, on tire plus vers Disneyland que vers quelque chose qui correspond au quotidien dans lequel on est en train de vivre. Alors forcément, je comprends, hein, Itsasu, Assar, il y a des endroits qu'on doit respecter, et de l'extérieur, d'ailleurs, ça plaît beaucoup aux gens qui viennent en disant « Ah, tout le monde a les mêmes maisons ». Mais quand on y vit, et mon associé Boris a construit une maison qui répondait à des principes de bioclimatisme, une maison en paille, donc qui a poussé la réflexion très très loin. Bon, faire rentrer ça dans des principes de la construction de Lecce qui tient depuis 200 ou 300 ans, c'est pas forcément toujours très facile. Ça pose une vraie question, parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions assez importantes sur le territoire, des remises en cause positives, politiques, sociales, mais sur l'architecture, on reste sur des principes qui sont très arrêtés et qui ne sont pas toujours très réfléchis. Le colombage, c'était un système constructif. Aujourd'hui, obliger quelqu'un qui fait une maison en parpaing de rajouter des colombages, ça pose des vraies questions. Travailler des fenêtres qui sont plus verticales que larges, ça pose d'autres questions. Bon, tout ça, ça après met du temps et c'est pas simple de trancher, mais c'est vrai que par rapport à ça, je pense que on pourrait prendre plus conseil vis-à-vis de ce qui se passe de l'autre côté, où eux, là, ils se posent pas de questions, ils répondent, ils sont à marche forcée sur certaines choses. Peut-être que par moment, ils vont un peu loin, mais on va avoir un besoin de y réfléchir. Et depuis 10-15 ans que je fais ce métier, je sens pas une ébullition très grande. Il y a des gens qui le font, mais il n'y a pas de consensus par rapport à ça.
un rêve. Mais voilà, déjà, avoir une possibilité, peut-être si on parle du territoire basque, de pouvoir avoir des interlocuteurs et avoir, on va dire, une possibilité d'avoir une pensée un peu transversale qui donne des directions qui sont pas chacun dans son village, chacun dans son coin. Et puis qu'on puisse démocratiser ces réflexions là, par rapport à l'écoquartier, même si bon, voilà, ce sont des points qui sont très précis, mais la démocratisation d'un habitat un peu plus sain, un peu plus participatif et qui répond à des questions environnementales qui sont hyper importantes pour nos enfants.
Radio Cultura. Punto Eus.